bonjour, 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 bienvenue, c'est la bande originale.
Bravo.
Avec Leïla Cadeau. Oui, avec Leïla Cadeau, rendez-vous. Avec Monsieur Philippe Labrou.
Oh, Philippe.
Avec Daniel Morin.
Bonjour, Daniel.
Avec Gisorel.
Bonjour.
Richard Ornac.
Hello.
Et notre invité, Monsieur Du... Monsieur Alexandre Jardin.
Il y a eu du jardin, là.
Il y a eu un du... Il y a eu un du... C'est le charme. C'est le charme qui fait ça.
What else?
C'est le charme. Et la fatigue. Pardon pour cette voix pourrie que je vous offre aujourd'hui. Bienvenue, Alexandre Jardin. Merci.
Bonjour, bonjour.
Merci, merci, merci d'être là pour nous parler de ce livre « Laissez-nous faire ». On a déjà commencé, ce qui pourrait être aussi le titre de cette émission. On va parler de ce côté militant et impliqué, surtout pour sauver notre pays et la société dans deux secondes. Mais d'abord, avez-vous, camarades, travaillé votre sujet? Et par exemple, dites-moi ce que le papa Jardin avait déposé un jour dans l'annuaire d'une cabine téléphonique.
Ça, je sais.
Alex.
Un chèque.
En blanc.
Oui, Philippe Labrou, oui, Alex Dizorac.
Je trouvais ça génial.
Un chèque en blanc.
J'aime bien l'idée.
Mais c'est quoi ce délire? Enfin, c'est ce que vous racontez dans le livre en même temps. Je fais le mec surpris, mais... c'est quoi ce délire? Page 25.
Dans un annuaire. Oui. Et pas dans un annuaire.
Oui. Papa avait toujours peur que le romanesque ne soit pas présent au quotidien. Donc, dès qu'il y avait un creux, il arrêtait la voiture quand on allait faire des courses le dimanche matin.
Enfin, on peut mettre un billet de 100 euros dans l'annuaire, c'est romanesque aussi, on n'est pas obligé de mettre un chèque en blanc.
Le chèque en blanc, ça veut dire...
Non. Il signait le chèque, il me le montrait, il n'y avait pas de montant.
Ouais.
Il fallait que le risque soit illimité. Il allait foutre le chèque dans un bottin téléphonique, il remontait, il redémarrait, il me disait, tu vois mon chéri, si quelqu'un trouve le chèque, on est ruiné.
Mais oui.
Alors
est-ce
maintenant,
vivant. Est-ce que le compte était fourni?
Le pragmatisme du voyou.
Pas toujours. Il y avait parfois des trous béants. Ah. Mais il y avait.
Donc, tu pensais que le chèque
était un homme
rejeté.
qui m'a appris à vivre comme ça.
Ouais. Oui, puisqu'il vous a dit, la sécurité, c'est la mort.
C'est la mort. Il vivait dans un risque permanent. D'ailleurs, il est mort très jeune. Il est mort plus à 46 ans. Mais
vous avez failli dire, il est mort plus jeune que moi.
Ouais. Oui.
Non, c'est une jolie formule.
Oui, il est mort plus jeune que moi.
Bah oui. C'est que le manque est toujours là et que vous rendez compte
il,
que...
Mais il me montrait la largeur de la vie, quoi.
Mais quand il vous disait la sécurité, c'est la mort, vous aviez quel âge?
Il a dû faire ça entre mes 10 ans et mes 15 ans, quoi.
Mais c'est bizarre de dire ça à son enfant, la sécurité, c'est la mort.
Mais non. Ouais, c'est pas rassurant pour un enfant.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Il me montrait la largeur de la vie. On vit, nous, en ce moment, dans une époque où tout le monde a la trouille de tout.
C'est vrai.
Moi, j'ai grandi avec des gens qui n'avaient pas peur, quoi. Qui n'avaient pas peur d'aimer, qui n'avaient pas peur de tenter.
Non, vous avez grandi dans un milieu aussi où on peut se permettre de dire ça. C'est pas totalement anodin de dire que la sécurité, c'est la peur. Pourquoi on a des enfants, on souhaite quoi ?
C'est la mort, pardon.
Quand on a des enfants, on peut leur souhaiter une stabilité.
Il était constamment ruiné, lui. Il passait son temps à être ruiné. On était saisi constamment par les huissiers. Il y avait un chef décorateur de ses amis qui avait fait construire, qui avait mis des caissons pour réduire la largeur de l'entrée de la maison pour qu'on ne puisse pas retirer les meubles. Et lorsque les huissiers arrivaient, ils disaient, mon chéri, on va mettre les caissons. Mais alors, on vivait de manière romanesque.
On va pas parler que de papa.
Non, c'est pas ça.
Non, on va parler de votre grand-mère aussi. Que fabriquait-elle? Bah oui, que fabriquait-elle pour toute la famille?
Des billets de banque.
Non. Non.
Est-ce que c'est comestible?
C'est.
Elle tricotait.
Ça pourrait. Oh, non. Allez, non, c'est pas comestible.
C'est bizarre
comme réponse.
C'est comestible, mais c'était pas fait pour être mangé.
Ah d'accord.
Normalement, ça se mange, mais elle le faisait pas pour que ce soit mangé.
Ça, c'est cocasse.
Bah oui.
Je te confirme, c'est cocasse.
De la peinture avec de la soupe.
Non.
J'ai l'impression qu'à la cantine de Radio France, ils font aussi ça. C'est pas fait pour être
mangé. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé là-bas. Non, mais ils vont jamais trouver.
Non, c'est introuvable.
Ils vont jamais trouver. Alexandre Jardin, dites-le.
Non.
Elle faisait quoi?
Non, c'est à vous de le dire, d'assumer. Moi, je veux bien l'écrire dans un livre.
Donc, c'est un indice, donc c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Elle faisait des capotes en boyau de porc.
Ah ben, ça se mange.
Oui. Bah oui, mais
elle mangeait tout.
C'était pas fait pour être mangé, quoi. Le boyau de porc, ça se mange, mais là où elle voulait qu'on s'en serve, c'était pas fait pour être mangé.
Ça peut faire une fin de soirée.
Ça peut.
Elle mangeait également ses chiens.
Mais elle faisait pour toute la famille. C'est-à-dire, elle faisait quoi? Pour vous?
Pour les petits-enfants. avec avec une attention extrême.
Mais moi, je trouve que c'est un tu-sexe, c'est un tu-l'amour. Moi, ma grand-mère, je t'ai fait une capote au... Non, c'est pas possible, j'imagine pas ma grand-mère le faire, moi.
Non, mais elle me
c'est
faisait
l'amour.
Elle
non,
me faisait
Guy,
comprendre.
C'était pas pour l'utiliser avec que... votre grand-mère. C'était un cadeau.
Qu'aimer les femmes était la grande affaire.
De
c'est peut-être pour ça. C'est un truc de dingue, ça.
Mais elle n'était pas totalement dans le monde réel.
D'accord.
Elle n'avait pas de papier, par exemple. Elle était contre. Elle me disait, je suis contre.
Très
elle
bien.
Me disait, je sais qui je suis.
Ah, pas de papier d'identité.
Non, elle était contre.
C'est pas faux.
Qu'a fait Alexandre Jardin à la fin de son roman Joyeux Noël?
Il a eu les boules.
Au oui. Jeu de mots.
Oh, oui. Oui, oui, et on l'a
Bing.
Vu.
Ah, il était tout nu.
Exactement. Ça aussi, il faut... Parce que l'argent revient aussi avec la feuille d'impôt.
Oui, oui.
Pas que tout nu, c'est ça. Vous avez posé nu.
C'est un livre sur la vérité.
Ouais. Nu avec votre feuille d'impôt.
Oui.
Ça, c'est la signification psychanalytique de cette pause, c'est quoi?
C'était la conclusion du roman.
C'est, oui, non, c'était les impôts me foutent à poil. C'est,
non, c'était pas ça.
Je vous dis tout, c'est à la fois je suis sincère, je suis nu, et à la fois je vous dis ce que je gagne.
Oui.
Transparence oui. Sur tous les points.
Oui, c'était un livre là-dessus. Et donc, c'est vrai que lorsque j'écris...
Ne soyez pas gênés, vous êtes habillés maintenant, vous pouvez y aller.
Oui, mais ils ne le savent pas, ils nous écoutent.
Ils s'inquiètent, ils s'inquiètent.
C'est ça. Ils vous imaginent avec le préservatif.
Non, mais je veux toujours que les livres embrayent sur la réalité.
Alors, on va justement parler de ce livre, Laissez-nous faire, on a commencé, et avec un petit dessin qui dit que l'impossible, vous barrez, vous peignez, vous repeignez le IM pour que tout devienne possible. C'est un livre, j'ai pas envie de dire roman, parce que c'est un manifeste sur la prise en main. Il y en a marre de cet État qui s'occupe de tout à notre place. Il faut qu'on se prenne en main. Et d'une manière très malicieuse, vous racontez des souvenirs extrêmement personnels, une dizaine de souvenirs personnels. Donc vous racontez. Avec des souvenirs extrêmement, j'ai envie de dire, douloureux, parce que politiques, notamment sur votre grand-père qui était chef de cabinet ou qui travaillait en tout cas avec Pierre
directeur
Laval.
Directeur de cabinet.
Directeur de cabinet, Pierre Laval. Pierre Laval, qui est.
Alors, 42,
pour les plus jeunes d'entre nous ne se souviennent pas, mais c'était plutôt un traître du très, 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 très mauvais côté. Vous n'assumez pas à la fois cet arbre généalogique, ou du moins vous l'assumez en disant voilà, je ne veux pas que ça se passe à nouveau. Je ne veux pas que la bête monde reprenne sa place
qu'on
et qu'on dénonce
à
et
trier
qu'on dénonce
les hommes
noms.
En France.
Voilà, c'est ça. La formule est employée. Trier les hommes.
Trier les hommes, non. Mais c'est le livre que j'ai eu le plus la trouille d'écrire.
Pourquoi ?
Laissez-nous faire. Parce que c'est un livre irrévocable. Une fois que vous l'avez publié, vous ne pouvez plus l'effacer. Et en fait, c'est le livre que je planquais depuis toujours. Parce que je vivais avec un masque d'écrivain. Alors que je ne pensais qu'à une chose depuis mes 15 ans, c'est de prendre soin de mon pays.
Alors c'est ce que vous racontez, et vous dites que c'est arrivé très vite, ce côté, je vais, entre guillemets, sauver la France. Philippe Labreau.
Ben, on a une sensation, quand on connaît bien Alexandre, je le connais depuis toujours, de véritable schizophrénie, parce que pendant très longtemps, j'ai vu Alexandre hilarant sur les plateaux, séduisant tout le monde, des filles...
Séducteur.
Oui, séducteur. Des filles entières de fans pour signer ses livres dans les salons du livre et tout. Donc, romancier à succès, romancier plutôt sur des histoires d'amour légères et tout. Et là, vous êtes face à un homme militant qui prend acte. Et le livre, d'accord, c'est un démarrage, mais tu as démarré bien avant.
Il y a 15 ans, déjà.
Fais-je les 10
ans. Mais c'était une double vie. Je ne parlais pas.
Donc, oui, c'est ça. Ouais.
Donc, il y a deux hommes. Oui. Ou alors, tu as laissé complètement de côté le jardin qu'on a connu et qui rigolait chez Pivot.
Il y en a deux.
Non, mais...
Mais j'avais peur de laisser lire le deuxième, et c'est la première fois que je le laisse écrire un livre. Et c'est vrai que... Je sentais bien depuis 15 ans, depuis que ce pays accumule les révoltes, essaye de dire des choses en votant pour les extrêmes, je sentais bien qu'à un moment donné, il faudrait que je fasse ce que je fais là, maintenant, depuis 8 jours, en sortant ce livre.
Alors c'est quoi le moment donné?
Quel est le moment dans notre histoire, c'est-à-dire que... Okay,
alors soyons clairs et directs. L'actualité dit, et on entend ça partout, il y a les déçus de la droite, il y a les déçus de la gauche, donc allons vers le Front National, c'est la dernière solution qui n'a pas été utilisée. Et là vous dites, je ne veux pas que mon pays revive
aux extrêmes le monopole de la révolte.
Et vous comparez
la révolte française qui est en train de gronder en ce moment.
Vous comparez la France à une femme délaissée qui pourrait devenir femme adultère et cette Marianne pourra aller forniquer avec le Front National parce que les deux partis dits majoritaires, les compagnons de route habituels,
ne se remettent pas en question.
Voilà, considèrent que c'est
du
acquis.
Du tout aux dernières élections européennes. C'est un chapitre clé dans mon livre. On a vu le Front National virer en tête et moi j'attendais quelque chose, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, les partis...
Il y a déjà le 21 avril 2002.
Là, vraiment, ouais. Virer en tête, quoi.
Et les Européennes.
Aux Européennes. Ouais, ouais. Et tout à coup, le peuple disait quelque chose, essayait de dire quelque chose, essayait de retourner la table. Et que s'est-il passé dans nos partis républicains?
Vous dites rien, vous dites rien.
Rien. Il n'y a eu aucun... rien. Ils ont continué... Ils se sont comportés exactement comme un chef d'entreprise dont le chiffre d'affaires s'effondrerait et reviendrait devant le conseil d'administration et dirait « J'ai une super, super idée. On va continuer comme avant. »
Mais vous attendiez à quoi?
Et donc, je me suis dit qu'à un moment, nous, les citoyens...
Mais à quoi vous attendiez? Vous dites rien.
Ouais.
Vous attendiez à quoi? Est-ce qu'on peut se mettre dans la place éventuellement de ces politiques-là? La gauche totalement en déroute, vous parlez d'une débâcle, d'une raclée.
Je vais vous dire exactement à quoi je m'attends.
Ouais.
Est-ce que Jospin a fait, c'est-à-dire
fait 15
je,
ans
quitte, que, je quitte la politique.
Ça fait 15 ans, et c'est exactement l'objet de mon livre, que je mène une double vie. Une vie de militant associatif. Que je vis dans les territoires, que j'installe des programmes.
Que vous racontez dans le livre,
donnez des exemples précis.
Extrêmement précis.
C'est pour ça que je voudrais précisément savoir ce que vous attendiez à quoi de la part de la gauche, par exemple.
Eh bien, je sais que notre peuple est en train d'inventer les solutions dont il a besoin dans les territoires. Je sais que les maires fabriquent les solutions.
Alexandre,
je sais que les entreprises.
Répondez à la question.
Je pensais qu'à un moment donné.
Alexandre, ne racontez pas ce qu'il y a dans le livre, on l'a lu. Oui. Racontez plutôt ce à quoi vous vous attendiez et qui a fait que vous êtes intéressé justement.
Un acte de confiance dans notre population.
À savoir. Parce que quand vous dites aucune réaction après la débâcle des européennes, j'entends. Mais dites-moi ce à quoi vous attendiez.
Bah Alexandre, j'appelle les vigiles si vous ne répondez pas.
Que voulez-vous qu'il fît?
J'attendais un acte de confiance dans la société civile, que l'on casse le marché de la promesse. Or, je me tourne aujourd'hui vers des gens qui ne sont plus sur le marché de la promesse.
Mais attendez, dans votre bouquin,
Je pensais qu'ils allaient faire ce que je fais. Je pensais qu'à un moment donné, dans les partis républicains, les gens se diraient « Tiens, on va activer les ressources du peuple ». Les ressources des associations, du monde entrepreneurial, des mairies.
Donc il aurait fallu qu'un homme politique prenne la parole.
N'a pas été fait.
Il aurait fallu qu'un homme politique prenne la parole et se présente comme ça devant les Français en annonçant quoi
En disant ça ne marche plus d'en haut.
Oui,
ça ne peut repartir que par le bas.
Nicolas Hulot le dit, et vous en parlez d'ailleurs dans le livre.
Oui, mais simplement, on va faire du Hulot, c'est ce que je raconte dans le livre. En 2017, Hulot avait proposé en 2007 une stratégie qui était... Signez et faites-le. Ouais. Évidemment qu'ils ne savaient pas faire. Vous avez déjà vu de près un cabinet ministériel. Je veux dire, ce ne sont pas des gens entreprenants. Ce sont des épileptiques qui cavalent derrière l'actu.
L'image.
Non, mais tout le monde le sait lorsqu'on les voit de près. Donc, à un moment donné, nous, on va faire l'inverse.
Vous
on va leur proposer,
Colbert,
nous, les zèbres, on est en train de fédérer tous les feuzeux en France. C'est-à-dire les gens qui passent déjà
à l'acte. Il y a les feuzeux, il y a les taiseux.
Il y a les diseux.
Les diseux, pardon. Et les mini-colbert.
Et les mini-colbert.
Alors, il faut juste...
Et les zèbres.
Alors,
ça fait beaucoup de monde.
Les zèbres, ce sont tous des feuzeux. Ce sont des gens qui font des associations.
C'est quoi la définition du zèbre?
Un zèbre, c'est quelqu'un qui résonne en dehors du cadre. C'est une drôle de bête. Et je vais vous prendre un exemple très, très concret.
Ni blanche, ni noire.
Vous avez 2,5 millions de gens qui n'ont pas de dribble. Il y a des centaines de milliers de gens qui nous écoutent, qui ont été foutus dehors de leur banque, qui ne peuvent pas payer la cantine de leurs enfants.
Ou qui ne peuvent pas encaisser un salaire donné par chaque...
Et qui nous écoutent, là.
Voilà, bon. ils touchent de l'argent, ils pourraient toucher de l'argent, mais comme ils n'ont pas de
l'aide
banque...
sociale.
Voilà, c'est ça.
Mais ils ont été virés, ils n'ont pas de dribble. Vous ne pouvez même pas vous inscrire dans une agence intérimaire si vous n'avez pas de dribble. On ne peut pas vous payer. Ouais. Eh bien, que font tous les partis gouvernementaux jusque-là? Ils font voter des grandes lois. Ils pensent que par en haut, on va régler par la voie législative. Évidemment que ça n'a pas marché. Moi, j'ai trouvé deux mecs qui ont fondé un truc qui s'appelle compte-nickel.com. Vous tapez, vous trouvez le buraliste le plus près de chez vous. ils installent des machines, vous filez votre carte d'identité, on ne vous parle pas, on ne vous humilie pas en vous posant des questions. Et ils ont rebancarisé, ça coûte 20 euros par an, ils ont rebancarisé 100 000 personnes en un an. C'est ça un faiseux. Il résonne en dehors du cadre. C'était comme, une idée géniale fille, de s'installer chez les buralistes.
Ouais. Comme la fille Alexandre dont vous parlez aussi, qui a eu l'idée de, pour les mutuelles, de réunir des personnes qui n'avaient pas.
C'est la mutuelle de proximité,
la première UL, je crois, ou enfin, j'ai plus le nom en tête. Mais en tout cas, c'est même le premier déclic qui était cette fille qui avait réuni des personnes sans assurance, sans mutuelle.
Donc ces solutions
existent.
Elles existent. Là, par exemple, il y a des maires ruraux qui m'envoient un programme tout con.
Alors, est-ce que le problème, c'est de les fédérer?
Oui, c'est ce que nous faisons.
Ouais.
Et c'est un travail colossal.
C'est pas simple.
Non.
Parce qu'il y en a des associations.
Non, mais on crée des bouquets de solutions. On va proposer aux mairies des politiques publiques clés en main, prises en charge par la société civile et les maires, pendant 2 ans. Et puis ensuite, on fera ce deal, on proposera aux partis. Mais pour arriver à publier un livre comme ça, putain, c'est des années de trouille.
La trouille de quoi ?
Parce que, une fois que vous enclenchez un mécanisme comme ça, là, ça fait maintenant 8 jours que la machine, la presse régionale est en train d'embrayer.
Vous dites c'est comme une tempête, quoi. Ça va vite. On ne se rend pas compte à quel point ça part et ça va vite.
Non, mais en publiant un livre comme ça, j'ai déclenché quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire que c'est un tsunami de cette France qui est capable de fabriquer des solutions, qui est en train de venir vers nous. Donc vous faites lever un espoir absolument colossal. Là, par exemple, tout bêtement, je m'excuse auprès de tous les programmes qui nous en envoient, parce qu'on n'arrive pas à tout trier pour l'instant. Parce que la nation est en train de se prendre en main.
Mais attendez, ça veut dire quoi, Alexandre? Vous n'êtes plus un romancier, vous êtes devenu un homme politique, vous allez vous présenter aux élections, c'est un parti que vous êtes en train de monter?
Il est... Le deal... Non, c'est le contraire. C'est ça que j'ai découvert en écrivant mon livre. C'est qu'à partir du moment où vous décidez d'avoir une action politique en étant délivré du besoin du pouvoir institutionnel, mais vous êtes beaucoup plus fort.
On a quand même besoin d'être gouverné, on a quand même besoin...
Oui, c'est pour ça qu'on va proposer un deal, une alliance entre nos bouquets de solutions et les partis républicains.
Lesquels ?
Le centre, la gauche et la droite, pour battre Marine Le Pen. Mais joliment, ça fait 30 ans qu'on vote contre... Qu'on est tous désespérés lorsqu'on met un bulletin de vote, parce qu'on est. En fait, ça fait 30 ans qu'on vire. À un moment, je voudrais qu'il y ait quelque chose de joyeux en 2017. Je voudrais que la joie redevienne un mot français. Et pour ça, il faut que ce soit pragmatique. C'est-à-dire que nos bouquets de solutions, par exemple, le bouquet éducation, dans le bouquet éducation, vous avez mon programme Lire et faire lire. Il y a 16 000 retraités français qui vont transmettre le plaisir de la lecture dans les 100 départements.
Lire que vous avez démarré il y a déjà très longtemps.
Hein. Oui, ouais. 16 ans.
Et
je veux une extension nationale. Je veux que toutes nos écoles maternelles aient des retraités pour transmettre le plaisir de la lecture. Et nos écoles primaires.
On va en parler encore tout au long de cette émission parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de possibilités.
Mais du coup, ça fout la trouille de lancer ça. Parce qu'aussi, j'ai des enfants.
Alors, lancez pas votre nom. Pourquoi vous ne faites pas un collectif
qui est en train d'être mieux.
On y reviendra tout à l'heure, mais pourquoi ne pas faire un collectif et pourquoi ne pas juste prendre cette idée des zèbres au-delà de votre nom à vous, les zèbres et pas Alexandre Jardin.
C'est ça.
Mais ça s'appelle le mouvement zèbre.
Ouais.
Le mouvement s'appelle.
Oui, mais enfin, le bouquin s'appelle Alexandre Jardin, laissez-nous faire, on a déjà commencé.
Non, le bouquin ne s'appelle pas Alexandre Jardin.
C'est ce qui est écrit sur la couverture.
Oui, mais parce qu'il a.
Mais il écrit en gros, hein.
Oui,
en
plus, mais c'est moi qui l'ai écrit.
Alors, vous avez le droit d'écrire en petit.
Je signe mes livres.
Oui, vous avez raison de les signer, mais vous pouvez aussi les signer en petit.
Non, mais très clairement. Que je défends, ça s'appelle Bleu Blanc Zèbre.
Oui, j'entends.
.fr.
Et justement, tout le monde peut aller sur ce site et avoir de
et
plus.
Et participer.
Voilà.
N'attendons plus rien d'en haut.
Non, puis il y a beaucoup de choses. Il y a notamment la solidarité aussi de toute une confédération paysanne pour qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire et qu'il y ait une redistribution de ces produits.
Les Français sont géniaux.
On va en parler. Et ils le sont absolument et ils sont extraordinairement solidaires quand ils savent que l'autre est dans le besoin.
Ensemble.
Absolument. Laissez-nous faire. On a déjà commencé. C'est chez Robert Laffont. C'est Alexandre Jardin qui est notre invité.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Avec Lizorek, Alex, faites attention c'est un réalisateur aussi, c'est un auteur, mais aussi un réalisateur que vous avez à côté de vous.
Ben oui, mais écoutez,
vous parlez cinéma sans avoir vu les films.
Et faut pas l'emmerder.
Faites gaffe.
Mais c'est un auteur lui aussi maintenant.
Oui, faites gaffe.
Alex,
comme Philippe Labro. Ouais.
Je suis très entouré de deux réalisateurs.
Eh bien non.
Molo.
Je vais pas vraiment.
Mais rassurez-vous, je suis là. Il y a un con qui a pas écrit un livre et qui a pas fait un film.
Et on est là aussi. Hein.
Sauvez-moi. Non, non, mais en fait, chaque semaine, je parle de cinéma sans avoir vu aucun des films dont je parle. Ce qui me permet évidemment d'ajouter une petite pertinence à mon propos, mais cette semaine, voilà, comme ça je prends aucun risque, je vais vous parler d'une exposition. L'exposition Harry Potter à la Cité du Cinéma jusqu'au 6 septembre. Exposition que j'ai choisie pour mieux vous en parler, de ne pas aller voir.
Mais oui.
Et puis c'est sans doute plus cohérent puisque sur les 8 films de la série Harry Potter, je n'en ai vu absolument aucun. Alors, par contre, j'ai bien une vague idée. Si vous voulez, un petit gars à lunettes qui essaye de faire des tours de magie, ça fait quand même 3 ans qu'Hollande dirige la France. Donc voilà, c'est pas si compliqué. Donc la Cité du Cinéma, exposition Harry Potter, moi naïvement, je croyais que les expos, c'était pour apprendre des trucs, pas pour vivre un sentiment d'appartenance proustienne à un produit culturel. Au moins à Disneyland Paris, sorte d'exposition interactive sur l'univers de Disney, c'est clairement plus une grande foire où tu vas pour pécho. Et ça, Nicolas Sarkozy l'a très bien compris. Mais revenons à Harry Potter et posons-nous la question, pourquoi ce film-là? Si c'est pour retrouver les vrais accessoires d'un film, je pense qu'une exposition 50 Shades of Grey s'avérerait plus intéressante. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, une exposition 50 Shades of Grey existe à Paris, dans mon 32 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés.
Pervers.
Voilà.
Ah, t'as 32 mètres carrés.
Oui, ça augmente. Si ça augmente, je suis écrivain maintenant.
Oui. 32 mètres carrés par pièce. Chaque toilette, chaque douche.
Vous exagérez. Sinon, voilà, je vais être un peu plus cinéphile. Je suis quand même entre deux grands réalisateurs. Pourquoi pas une exposition La Grande Bouffe, hein, à Rungis, avec le Malox fourni à le ticket d'entrée. Une exposition Le Miroir de Tarkovsky. Alors évidemment, faut aimer se voir. Une exposition qu'on pourrait jumeler avec l'exposition Alice au Pays des Merveilles, puisqu'il suffirait de passer derrière le miroir. Oui, j'aime bien mettre un peu de poésie dans mes chroniques. Alors bien sûr, on envisage l'exposition Jurassic Park. Pour cela, on va ouvrir occasionnellement l'Académie française pour que les gens puissent aller voir en vrai les dinosaures.
On les salue
tous.
Un peu de respect.
Oui, pardon. Dans la même veine, l'exposition Les Sous-doués, qui s'est malheureusement achevée récemment, mais elle recommence en septembre prochain puisque le PSG va rejouer la Coupe d'Europe. Toutes ces expositions font surtout penser aux expositions Star Wars. Hein. On songe à tout le monde qui vient comme ça déguisé en personnage, chose que l'on imagine moins pour l'exposition Mon curé chez les nudistes. Mais Star Wars, qui est un cran au-dessus, ça, j'ai appris ça en faisant des recherches, le jedisme, avec deux i, est considéré comme une religion. En Angleterre, en 2001, ils ont fait un sondage chez les croyants. Alors, 72% de chrétiens, 3,1% se disent musulmans, 1,1% se disent hindouistes, et 0,7% des Anglais croyants, soit près de 400 000 personnes, se disent jedistes.
C'est quoi ?
Jedi.
Jedi.
Selon les préceptes Jedi. Ah bah ouais. Donc,
et pas jihadiste.
Oui, c'est ça.
Non, me doutais.
Oui, excusez-moi. Mais donc, la laïcité...
J'imagine pour faire un attentat, t'arrives en Chewbacca, t'es pas crédible.
Donc la laïcité est en danger.
Je suis ton père.
Il va falloir interdire les sabres laser dans les cantines scolaires, sinon c'est pas possible. Voilà, en gros, je vous conseille d'aller voir une seule expo sur un film, c'est celle du Da Vinci Code, puisque c'est au Louvre que ça se passe. Quant aux films qui sortent cette semaine, j'en ai épinglé deux, Nos Femmes et Connasse, qui bien sûr sont deux films différents. Alors, vous, allez au cinéma et allez aussi au musée.
Merci Alex Vivorek. La loupée avec Fever. Notre invité est Alexandre Jardin, il publie Laissez-nous faire. C'est chez Robert Laffont. Ambiance.
I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is
something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó.
Essayer un vêtement de la grand-mère d'Alexandre.
La loupe. Je ne savais pas que ça retrécissait au lavage.
Je sais pas, toi aussi ça t'inquiète, Philippe.
Oui, je suis un peu inquiet.
Ouais,
attention à qui vous l'avez mis à l'envers.
Il vous en reste.
Je devrais pouvoir vous en procurer.
Oui, j'en parlerai à ma femme d'abord. Bien, voici la
c'est
bande.
Du porc, il peut pas.
La bande. Si, je peux. Au contraire. Au contraire.
Pas le droit.
C'est flamme.
Je vais me gêner. Voici la bande originale de notre invité Alexandre Jardin. On commence en 1965. Ah, enfin un peu de joie.
All my troubles seem so far away. God looks as though
les Beatles avec Yesterday en 65, il se passait quoi, Léla ?
Deux choses, je vais susciter deux images dans votre tête et je laisserai susciter.
Ah, j'avais entendu.
Deux images dans votre tête à chacun. Enfin, si encore il vous reste de la place pour avoir ce genre d'images. Des images sans doute douteuses et d'ailleurs, c'est voilà. Pour vous les pervers. Voilà. En 65, c'est le lancement enfin. De la mini-jupe en France et c'est aussi l'inauguration du tunnel du Mont-Blanc.
C'est pas pour les pervers, c'est pour la liberté des femmes. Elles s'habillent comme elles veulent.
Le Mont Blanc.
Non, pas le Mont Blanc, la mini-jupe. Alexandre, vous débarquez sur notre planète en 65, en plein mois d'avril. Et je voulais parler de votre famille. Que ce soit Philippe Landrieux, que ce qui déjeunait avec Jaurès.
Le jour où il s'est fait tuer.
Voilà.
Le grand-père de maman.
Il a même été blessé au moment de l'attentat.
La première balle lui a déchiré la joue. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler par ma famille de tous ces milieux de gauche d'avant la guerre de 14 qui n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui.
Mais il y a également un Jean Jardin. Alors, lui, vous avez plus de mal à le digérer.
C'est le bras droit de Laval pendant les grandes rafles. C'est inavalable, quoi.
Votre honte.
Ben oui. Vous feriez comment, vous, si c'était votre grand-père ?
Non, je sais pas.
Dès que dans la famille, il y a quelqu'un d'un peu organisé, personne ne l'aime.
Donc c'est vrai que ça crée comment dire. Vous ne pouvez plus à votre génération tourner la tête lorsque des choses impossibles se profilent.
Est-ce que c'est ça où vous dites j'ai une dette vis-à-vis de mon pays parce que mon grand-père a trahi, a été collabo et donc il faut que je rende.
Oui. Tout part de votre enfance. Tout part de vos 13 ans. C'est à partir de 13 ans que vous commencez à prendre conscience de tout ça.
Ce qui est... C'est vrai qu'à 13 ans, j'ai commencé à voir circuler... Non, plus tôt, même plus tôt, la première fois en 1974, lorsque j'ai vu mon grand-père distribuer au moment des élections présidentielles, des valises de billets à la droite et à la gauche. Et je me suis dit, mais ça va pas, quoi. J'étais petit, hein, mais... Il y avait quelque chose qui ne m'allait pas. Je ne savais pas qui il était exactement, ce qu'il avait fait pendant la guerre. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Quoi. Je raconte ça dans le livre parce que... Putain, ce que ça fait du bien de publier un livre comme ça. C'est-à-dire que le jour où dans votre vie, vous cessez d'avoir les jetons.
Ouais.
Et vous vous dites, vous ruminez un truc depuis vos 13 ans, vos... Et vous vous dites qu'à un moment donné, si ça chauffe dans le pays, vous allez vous en occuper. Et en ce moment, depuis que j'ai sorti ce livre, ce matin, par exemple, j'étais dans un TGV. Et tout à coup, les gens m'ont entendu, m'ont vu à la télé ou à la radio. Et tout à coup, il venait et il me racontait, un homme d'affaires qui m'expliquait que ce qu'il faisait dans son village, il faisait un festival de poésie où il lisait du Villon à 800 personnes sous le cagnard un 15 août. Et il me disait, le village reprend vie. Et il commence à m'expliquer ça. Paf, il y a un autre qui arrive et qui me dit, moi, je suis membre d'un mouvement, j'ai oublié les initiales, on va les contacter. Ce sont des chefs d'entreprise qui travaillent pour amener vers l'emploi des jeunes de banlieue qui sont évidemment avec leur CV exclus d'emblée. Ils refoutent au boulot des milliers de gosses. Et puis alors, quand vous parlez de ça dans un bar de TGV, ben les autres arrivent, quoi. Et tout à coup, vous voyez un pays qui est capable. C'est le contraire du journal de 20h, ce que j'ai vu ce matin.
Ça dépend quel journal vous regardez aussi.
Non, mais je veux dire, c'est le contraire de la désespérance. Il y a un pays qui est bourré d'espoir. Qui est bourré d'espoir en bas. Et au moment... Et en fait, comme toutes les révolutions extérieures, ça démarre à l'intérieur, quoi. C'est pour ça que les livres sont... Lorsque vous acceptez d'écrire, surtout de publier, c'est-à-dire d'assumer qui vous êtes vraiment dans un bouquin, putain, c'est explosif. C'est vraiment explosif. Et je vous jure que ce matin, dans le bar du TGV, c'était magnifique.
On continue de parler de la famille en 1980. Oh oui. Oh, encore.
On va le laisser seul.
Vas-y. Julien Clerc, le plus rock des romantiques avec Lily, vous l'avez lancé. Il se passait quoi en 80, Leïla?
En 80, c'est la création de Pac-Man et de CNN.
En 80, c'est le Zubial qui vous quitte et qui nous quitte. Le Zubial, c'est le surnom que vous donniez à votre papa.
Qui déposait ses chèques en blanc. Et qui vivait, lui, sans la peur.
Et toujours...
N'était pas retenu.
Et qui a écrit Angélique.
Imaginez votre vie à vous. Là, la semaine dernière, vous retirez toutes vos peurs. Ben, vous avez la vie du Zubial.
Et qui avait un talent fou de scénariste.
Et qui a écrit Angélique.
Oh, ben pas seulement.
Oui, mais moi, Angélique, tiens.
Il a écrit Les Angéliques parce qu'il a perdu du fric au poker. C'est pour rembourser des dettes de jeu.
Sinon, elle n'aurait pas écrit.
Et ben, je me félicite d'avoir perdu de l'argent.
Vous avez décidé de balancer sur toute la famille, on est d'accord. Hein. Même quand on fait des compliments.
Mais non, mais parce que...
Non, je blague.
Parfois, ils écrivaient des classiques, mais ils ne le faisaient pas vraiment exprès.
Vous dites, il est mort. Vous dites, mon papa est mort d'avoir vécu toujours l'extrême. Alors, maintenant, l'extrême prend un autre sens, mais oui. Qu'est-ce que vous entendez par vivre l'extrême? Tout à fond.
Il était parfaitement
sans
conscient
aucune retenue.
Que la pédale d'accélérateur est tout près de la pédale du frein.
Vous allez vous en tirer avec une phrase comme ça.
Réellement. Alors évidemment, il aimait trop de femmes. D'ailleurs, pendant des années après sa mort, toutes les femmes qui l'ont aimé se retrouvaient dans une messe à Sainte-Clotilde, à Paris. Où elle se retrouvait le jour anniversaire.
Ouais, vous l'avez raconté, ça, oui.
Ouais. Mais ça veut dire qu'il leur avait ouvert quand même une fenêtre vers la vraie vie.
Tout à coup, il est en train d'imaginer ce qui va se passer après sa mort.
Non, mais il a ouvert des fenêtres pour une autre vie, mais bon, c'était quand même un mec sur qui les femmes ne pouvaient pas compter. On peut le dire aussi comme ça.
1986. Ah, ouais, il a mis les mêmes préservatifs. Hein. Trop serré.
En hérisson.
Non, c'est un personnage, la grand-mère. J'ai lu qu'elle dormait les fenêtres ouvertes en espérant qu'un cambrioleur vienne lui rendre visite la nuit.
Oui, mais ça n'a jamais marché.
Oui, bon, pardon.
Prince avec Kiss en 86. Il se passait quoi, les là, entre autres?
86, année aérienne avec la sortie de Top Gun et l'explosion de la navette Challenger.
Bille en tête, c'est en 86, c'est un triomphe, l'histoire de cet adolescent pensionnaire qui découvre l'amour dans les bras d'une jeune femme de 33 ans, cougar entre guillemets on dirait aujourd'hui. Moi c'est l'auteur romantique dont parlait tout à l'heure Philippe Labreau, en fait il est toujours en vous, sauf que vous n'êtes plus...
Il vit toujours, mais...
Vous n'êtes plus amoureux des femmes, maintenant vous êtes amoureux de la France.
Aussi.
Parce que vous en parlez avec amour.
Aussi.
Qui est une femme admirable.
Oui, mais parce qu'on est... Parce que le peuple est en révolte.
Est-ce que vous pensez pouvoir, avec maintenant l'implication et avec votre... Et là, on voit, vous êtes à fleur de peau. Dès que vous parlez de ces sujets, ça vous émeut autant que la beauté d'une femme dans une camionnette au Bois de Boulogne. Parce que vous le racontez aussi, celle qui vous a fait découvrir Charles de Gaulle. C'est un truc quand même
Une pute magnifique.
Brune.
Et qui était gaulliste.
Qui était gaulliste ou qui était gaullé
dans sa camionnette.
On dit qu'il était gaullé, je crois. Hein.
Une gaullée gaulliste.
Et qui se met à vous lire du De Gaulle après avoir fait une petite fleur.
C'est ça.
buccal ou manuel. C'est quand même assez étonnant. Hein. C'est un des souvenirs.
Ça vous a plu, ça vous a plu, Philippe Labro, ce passage.
C'est pas que ça m'a plu, c'est que c'est un souvenir étonnant, c'est tout. Mais c'est le mélange de ce bouquin, d'ailleurs. Il est à la fois sur les taiseux, les faiseux, les zèbres et tout. Et en même temps, il y a des petits comme ça, des petits passages totalement...
Des fulgurants, oui, absolument.
Pratiquement à la fois rien à voir et en même temps, qui ont un rapport avec l'histoire.
Ouais. Oui, parce que De Gaulle, vous finissez même votre livre sur De Gaulle.
Ah ben, c'est votre bonhomme.
Ah, fascination pour De Gaulle.
Oui, parce que Charles. Je parle de celui des années 40, de celui qui dit non, de celui qui sort du cadre... avec des mesures, quoi. Et puis merde, c'est comme ça que j'ai envie d'être français, quoi. J'ai envie d'appartenir à un grand peuple. La dernière fois qu'on s'est bien conduit, c'était la France libre. À un moment, la Gaulle, quand vous arriviez à Londres.
C'était aussi le 11 janvier, par exemple, 2015.
Oui, mais. Bien sûr. Bien sûr. Mais. Moi, je suis très bouleversé. Je parle beaucoup de ces Français libres dans mon livre. Parce que ce sont des gens qui
n'attendent pas quelque chose de l'État, mais qui se prennent en main.
Qui n'acceptaient pas la fatalité.
Non, mais c'est le côté être assisté par l'État.
Ils se sont totalement pris en main, et finalement, il a suffi de 30 000 pour embarquer 40 millions de Français. C'est-à-dire, parce qu'ils avaient la joie dans le ventre. Lorsque vous lisez...
Là, vous parlez de la libération, vous parlez des...
Oui, mais il suffit de 30 000 Français libres.
Mais ce sont les circonstances qui font les événements aussi. Pardon, qui font les hommes.
Eh bien,
ce sont les circonstances de la Deuxième Guerre mondiale qui ont fait ces héros absolument dont vous parlez.
Bien sûr, comme malheureusement les attentats ont fait qu'on s'est retrouvé le 11 janvier.
Oui, mais l'adversité crée aussi aujourd'hui des êtres d'exception. Dans Mes Zèbres, par exemple, il y a un mec qui est pour moi un grand leader français, un type qui s'appelle Guillaume Babst. Il a monté un réseau de 300 épiceries solidaires. Il nourrit 1,5 million de gens par an. Il récupère tout ce qui est viré, tout ce qui est jeté à Rungis. Il remet au boulot un nombre incalculable de gens. Pour moi, c'est un grand leader français. Il n'a pas attendu qu'un gouvernement lui dise « Nanin, tu dois le faire ». Il n'a pas attendu qu'une loi soit votée. Il s'est levé. Pour moi, ces mecs-là...
Mais pardon, ce que voulait faire Coluche aussi avec les Restos du Cœur en disant « il y a des tonnes... »
Oui, ce qu'il a fait.
Mais malheureusement, ils ont toujours besoin d'argent, de repas. Ça ne résout pas le problème. Il y a de plus en plus de gens, malheureusement, qui ont besoin des Restos du Cœur. Heureusement qu'ils sont là.
Alors, nous, on est en train de réunir des programmes sur le logement, l'accès à l'emploi, l'échec scolaire... l'écologie appliquée.
C'était le deuxième projet de Coluche, c'était de passer après les repas aussi au boulot.
Ben maintenant, on passe...
Et au toit.
Bleu, blanc, zèbre, c'est complètement généraliste. Les gens ont des compétences absolues. Ça va des mutuelles.
Mais j'ai envie de dire que ce soit bleu, blanc, zèbre ou pas. Parce qu'il y a déjà des initiatives comme ça en France.
Oui,
les Français n'ont pas attendu bleu, blanc, zèbre pour commencer à se fédérer, à créer des choses.
Non, mais nous, nous
réunissons. À quoi ça sert de réunir, en fait, toutes ces forces? Pourquoi sous un même drapeau, une même appellation? Quel est l'intérêt?
Il y a deux problèmes.
C'est de négocier quelque chose?
Il y a deux. D'abord.
Et quoi?
Un des vrais problèmes, c'est qu'on a une foule d'expériences géniales et on ne sait pas les généraliser sur le territoire. Donc, bleu, blanc, zèbre, ça va servir à ça. C'est pour ça qu'on coopère avec les maires. La semaine dernière, j'ai été au Grand Journal de Canal, j'ai embarqué 50 maires. J'aurais fait chanter la Marseillaise, des maires ruraux. On coopère avec ces femmes et ces hommes qui sont des faiseux de terrain. Les maires, c'est ça. Les maires ruraux, par exemple, ça ressemble beaucoup plus à des militants associatifs qu'à des politiques nationaux.
Ah, puis ils s'occupent de chaque petit problème qu'il peut y avoir.
C'est sans doute le rôle politique le plus important en France, c'est le rôle de maire.
Oui,
sans doute. C'est fondamental. Mais qui est avec le moins d'estime, bizarrement. Oui.
Mais nous, on les intègre dans nos bouquets de solutions. Ouais. Et puis, tout ça, les entrepreneurs, les assos, les maires ruraux notamment, ce sont des gens qui ne pèsent pas dans le débat français. On est en train de réunir tous ces gens.
Qu'est-ce que vous voulez faire en réunissant ces gens? La question, c'était ça. Qu'est-ce qu'on obtient de plus?
Faire une extraordinaire force politique.
Ah, donc, on a vocation d'exercer le pouvoir?
Non.
Ah.
Non.
D'opposition, de contestation?
Il t'a dit non.
Mais enfin, je veux savoir.
Nous allons proposer.
Peut-être.
Non. Ça n'a pas vocation à ça.
C'est vrai qu'elle aime pas
qu'on dise non. Ce que je veux, c'est sortir des pattes des énarques, 30 à 40 sujets sérieux français, et les confier à des opérateurs géniaux. Enthousiasmants, qui ont la joie dans le ventre. Je parlais de Guillaume Babst. Merde, il est légitime. Beaucoup plus qu'une loi.
Mais il est légitime s'il veut se présenter, mais s'il veut pas se présenter.
Non,
s'il veut
je ne veux pas l'en faire un ministre. Je veux qu'il ait un contrat de mission d'intérêt général pour étendre les bonnes pratiques qu'il maîtrise.
Oui, sauf que vous voyez bien que ça veut dire à peu près la même chose. C'est qu'il faut lui confier des responsabilités.
On veut bien laisser aux politiques, on veut bien leur laisser les bagnoles de fonction,
Non, mais ça, c'est trop facile. Alexandre
ce qu'on
Jardin,
veut,
c'est
qu'il
facile.
Nous laisse faire.
C'est trop facile. Bah, on ne va pas limiter le politique à des voitures de fonction. Concrètement, comment vous faites avec cet homme que vous avez identifié, Guillaume Babs? Il entre quoi? En lien avec le ministère de quoi? De l'emploi?
C'est Bleu Blanc Zeb qui négociera avec les partis en 2017. Avant les élections.
En disant, si vous signez, combien d'actes à...
Alors, c'est en train de se faire en ce moment, puisque les bouquets se constituent.
Il y aura un pacte. Oui. Si vous signez les 100 propositions, les 200 propositions, nous dirons à nos membres de Bleu Blanc Zèbre de voter pour vous. Oui. Le problème, c'est que vous avez dit, on va aussi bien dire à l'UMP, Républicain, puisqu'il change de nom, PS et Centre.
Mais on a des zèbres à gauche et à droite, nous.
C'est que ça va être dilué dans ces trois mouvements. Le problème, c'est de réunir ça sous une seule bannière.
Nous allons leur proposer ça. Et s'ils ne veulent pas...
Qui ?
Les partis républicains.
Ouais. Qu'est-ce que vous leur faites ?
Nous irons aux élections, l'un d'entre nous.
On y arrive.
La seule phrase, si vous aviez lu exactement le livre...
Je l'ai lu exactement.
Il n'y a qu'une phrase qui est soulignée. Il y a une phrase qui est soulignée. C'est « Si nous allons aux élections, ce sera le signe de notre échec ». C'est-à-dire que ce mouvement n'est pas fait pour ça. Mais en revanche...
Mais vous dites que vous le ferez.
Évidemment. Pour négocier avec des partis politiques, vous croyez quoi?
Il faut être un parti.
Il faut être une puissance.
Dès le départ, soyons un parti. Considérez-vous un parti.
Non, ce n'est pas notre objectif. Je suis complètement sincère.
Alexandre Jardin, pourquoi ne pas le faire maintenant et négocier? C'est-à-dire ce qu'ont pu faire, des partis comme les Verts, les partis comme Luc, à l'époque
parce
de l'Union de la Gauche.
Nous voulons des contrats de mission.
Le centre et la droite.
Nous ne voulons pas du pouvoir exécutif ou législatif. Ce qu'on veut, c'est que les feuzeux en France puissent agir beaucoup plus largement.
Et est-ce que vous... C'est ma question.
Vous risquez d'être dilué dans ce qui va être appelé le système.
Est-ce que vous croyez
et vous risquez d'apporter de l'eau au moulin, justement, de ceux qui disent on est contre le système, et ainsi de suite.
Je vais être encore plus précis. Mm-hmm. Si mon lire et faire lire, si je le confie à un ministre de l'Éducation, l'Extension nationale, ils vont le tuer. Alors que si nous restons les opérateurs, l'énorme différence, en fait, avec ce qu'a fait Hulot, ce qu'il a eu le courage de faire en 2007.
Vous parlez d'erreur aussi. Hein.
Oui, mais il l'a fait. Hein. Ouais. Bon, c'est facile de venir après. Mais l'énorme différence, c'est qu'on vient avec les opérateurs. C'est-à-dire qu'on vient avec les filles et les types capables de le faire, capables de l'accomplir. Le problème, c'est l'action. Lorsque vous avez une idée, mais que vous n'avez pas la fille et le type qui est capable de le faire,
Alors pourquoi se soucier du politique? Comme vous l'avez dit, lire et faire lire fonctionne très bien
sans politique.
Pour deux
raisons. Parce que dans nos contrats de mission, on a besoin de sous.
Ah.
Or, à partir du moment où il faut restructurer...
Le nerf de la guerre.
Mais à partir du moment où il faut restructurer les finances publiques en France, on veut qu'ils renvoient beaucoup en bas.
Oui.
En bas.
Qu'ils distribuent en bas.
Oui. En bas, c'était vers les maires ruraux, vers les associations, pour qu'on arrive à tenir le choc dans cette période-là. Et puis, il y aura aussi un énorme combat des zèbres, la lutte contre les normes, parce que tout le monde en souffre.
Tout est expliqué dans le livre d'Alexandre Jardin, « Laissez-nous faire », on a déjà commencé, c'est possible donc, c'est chez Robert Laffont.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Daniel Morin, dans votre dictionnaire, quelle est la définition d'Alexandre Jardin?
Alexandre Jardin est né un 14 avril comme Léonard de Vinci et Robert Doisneau. Cela veut-il dire qu'un jour Alexandre Jardin ne s'emmerdera plus avec des pinceaux et prendra la prochaine Joconde en photo? Oui, ça me paraît clair. Alexandre Jardin est un écrivain cinéaste qui ressemble à Claude Sérillon et qui sourit comme Amélie Nothomb. Alexandre Jardin n'a pas écrit tant de livres que ça, n'a jamais eu de prix Nobel non plus et pourtant il est hyper connu. Tout porte donc à croire qu'Alexandre Jardin... a sûrement couché pour réussir. Alexandre Jardin, sa vie bascule le 29 avril 2015 quand il est invité sur France Inter pour parler de son livre « Laissez-nous faire, on a déjà commencé ». Un livre dans lequel Alexandre Jardin appelle à un grand rassemblement, bleu, blanc, zèbre. Un appel à se sortir les doigts du brouillard politique qu'on nous impose. Il est accueilli par Richard Lornac qui lui dit « J'ai connu une fille zèbre, une zébrette dans les années 70 ». Elle s'appelait Sophie et travaillait dans un zoo. On a tout de suite sympathisé, puis on a eu une petite aventure, mais rien de sérieux, c'était juste physique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Intrigué et perplexe, Alexandre Jardin se dit qu'heureusement que le service public est là pour donner du travail aux gens en grande difficulté mentale et affective. Puis l'émission commence, mais c'est pas de la tarte. Nagui, pardon, ne comprend pas.
Nadine
ne comprend pas.
J'ai compris, Nagui.
Dame Nagui, oui. ne comprend pas ce que des zèbres viennent faire dans un tel bouquin où pas une seule fois on ne voit un dessin de la savane. Philippe Labro, de son côté, est plutôt direct avec Alexandre Jardin. À 11h28 exactement, il l'attrape par le col et lui dit « Je vais te dire un truc, Jardin, tu le sais, tes histoires de zèbres, je m'en fous !» Pour résumer, la promo du livre est un échec en ce 29 avril 2015. Bien des années plus tard, Alexandre Jardin ne retiendra qu'une chose de cette émission, sa conversation avec Richard Lornac et l'immense regret de ne jamais avoir pu rencontrer Sophie la Zébrette.
Alexandre Jardin, laissez-nous faire. On a déjà commencé, c'est chez Robert Laffont, avec le côté « rien n'est impossible en France », le côté « il ne faut pas se laisser faire ». Et vous en faites aussi beaucoup sur « on est, il y en a marre d'être assisté ». On va en parler dans deux secondes. Un peu de musique pour adoucir les mœurs, s'il vous plaît. Avec Fauve Talula.
Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Je suis un peu fébrile et toi t'as cet air un peu songeur, tu fais ce bruit avec tes lèvres que je connais par cœur, les mots se font rares mais peu importe, les silences comptent aussi et on a toute la nuit. Alors que l'odeur d'amandes sucrées, de nos haleines alcoolisées nous revient par la baie qu'on expire, alors les langues se délient, alors on ose enfin parler, se dire les choses, tu es parti, je suis resté, on a changé. On s'est construit chacun de notre côté, j'ose pas trop le dire mais souvent tu me manques et je suis heureux à cet instant de pouvoir simplement te regarder. Dans ma poche un briquet, je fais des étincelles par série de trois, réflexes bizarres je sais, mais je voudrais que ce moment s'arrête pas. Si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les sales moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Alors que nos visages engourdis par le froid brillent sous le crachin nocturne, alors on discute à bâton rompu comme à cette époque bénie où tu partageais ma vie. J'aime toujours ce que tu es, en fait même plus qu'avant je crois, maintenant que t'es plus là. Et puis y a quelque chose de plus lumineux, de coloré, de plus vivant. Je trouve ça séduisant. Dans ma poche un briquet, je fais des étincelles par série de trois. Réflexe bizarre je sais, mais je voudrais vraiment que ce moment s'arrête pas. Et si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les sales moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages.
Ça s'appelle Talula, il s'agit de Fauve qui était venu dans cette bande originale, même s'ils n'avaient pas fait exactement les morceaux qui étaient prévus.
Ça, c'était sympa. Rancunier.
Mais non, mais pas du tout. La mémoire, c'est très important dans la vie. Il faut en avoir, mais pas du tout. On peut rancunier. La preuve, c'est qu'on passe Talula et c'est Fauve dans la bande originale.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Alors, dans cette bande originale, Alexandre Jardin signe « Laissez-nous faire », on a déjà commencé. D'ailleurs, ce livre, vous l'avez commencé quand ? Ça vous a pris aussi dans un coup de foudre en vous disant « Il faut absolument que j'explique le pourquoi du comment de ce que je vis » ou ça s'est passé comme une espèce de reportage journal quotidien de ce que vous viviez dans les différentes rencontres avec, avec ceux qui sont justement les feuzeux sur le terrain et qui s'occupent d'aider les autres.
C'est un mélange. J'ai commencé à l'âge de 15 ans à l'écrire. Et puis je l'ai reposé.
15 ans dans votre tête ?
Oui.
Ouais.
Non, mais 15 ans véritable. C'est un livre que j'ai souvent commencé, que je n'ai pas osé publier.
Pourquoi ? C'était pas l'image que vous aviez dans les médias ?
Il y avait de ça. J'avais peur aussi que ça m'engage tellement que je ne puisse plus écrire.
Oui. Ouais.
Plus écrire mes romans.
Et là maintenant, est-ce que ça va être le cas ? Est-ce que vous pourriez sortir Fanfan, Fanfan bis dans 6 mois ?
Non.
Non, il peut pas.
Non.
Pourquoi ?
Il a trop changé lui-même.
Il peut raconter, il peut, mais qu'est-ce qui l'empêcherait d'écrire une histoire d'amour?
Oui, parce que vous, avez,
oui,
vous non, étiez deux.
Oui, mais ça ne sera pas profond, ça sera
sans doute. J'entends bien. Mais quelque chose qui ne soit pas politique, qui soit simplement romanesque non, et fleur bleue, comme vous savez l'être, au bon sens du terme.
Mais peut-être plus tard, mais par moment, vous écrivez des livres qui vous permettent de vous trouver. Ça arrive, de temps en temps, en cours de vie. Là, c'est le cas. Donc, c'est tellement une révolution intérieure que forcément, ça modifie beaucoup de choses autour de vous. Donc, je ne peux pas être le même écrivain derrière.
Non, mais que vous ne soyez pas le même homme, c'est une chose. Mais est-ce que tous vos livres doivent maintenant être engagés et parler de ce qu'il faut faire en France et comment se constituer
jusqu'à Noël 2017
Vous êtes focus sur les élections.
Pourquoi je dis...
Non, mais dites-le.
On prend soin du pays. Non, mais on prend soin du pays. C'est-à-dire qu'on implante nos programmes. On n'attend pas 2017. On le fait semaine après semaine.
Est-ce que vous avez pensé rentrer dans un parti, celui qui vous était proche, et de l'intérieur le modifier en créant un mouvement?
C'est une façon d'agir aussi.
Oui, mais jamais. Ce sont des endroits sinistres.
Vous avez une désillusion totale sur le parti politique.
Mais ce qui transforme le monde, c'est la joie. Lorsqu'on fait des réunions avec nos zèbres, mais ils ont la patate. Parce que ce sont des gens qui ne se couchent pas devant la fatalité. Un mec qui vient de rebancariser 100 000 personnes, dans quel état il est? Il ne ressemble pas à un militant de parti politique. C'est quelqu'un qui a la patate.
Il y a des gens bien dans les militants.
Ces gens bien, ils sont coincés dans des systèmes de pouvoir extrêmement brutaux.
On est d'accord.
Ce ne sont pas des lieux de joie. De joie, d'accomplissement personnel.
Ils sont pas dans un parti pour faire la fête.
Quand j'ai dit Noël 2017, c'est ce que j'écris, mais noir sur blanc dans mon livre, on fermera les zèbres à Noël 2017. Parce que c'est une aventure civique qui a un temps, qui est faite pour donner du pouvoir à la société civile, lui donner des contrats de mission. On a toujours été un État. Il faut qu'on devienne une société d'adultes. Et ce mouvement, on va essayer de le porter jusqu'à... Et à Noël 2017, on aura gagné. Et on fera une fête, mais une fête absolument colossale.
Ça veut dire quoi, gagner pour vous?
Gagner, on aura fait signer au Parti républicain, on aura obtenu des contrats de mission pour la société civile.
Ou alors vous serez allé aux élections.
Oui, mais alors on aura échoué.
Si vous avez signé un contrat avec Nicolas Sarkozy ou François Hollande, si ce sont les deux candidats qui vont se représenter,
et quand ils verront,
pour vous, c'est une victoire.
Mais ça sera magnifique.
Ils ont déjà signé avec Hulot et des engagements n'ont pas été tenus.
Oui, on prendra quelques garanties. On y travaille.
C'est quoi une garantie?
Quand vous avez 110 programmes derrière vous, vous ne pouvez pas engager tout votre mouvement uniquement sur votre point de vue. C'est-à-dire que je ne peux pas décider ce genre de choses seul. C'est une aventure collective.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
On va continuer d'en parler de tout ça parce qu'on est ensemble jusqu'à midi et demi et Chris Escar va nous rejoindre après les infos de midi. Mais d'abord, Alexandre, je vais commencer toutes mes phrases par « Je n'oublierai jamais ». Richard Lonnec nous accompagne et vous les concluez ces phrases comme vous l'entendez. « Je n'oublierai jamais dans ma chambre d'enfant ».
Il y avait une raquette que m'avait offert mon père qui était tordue, dans un bois tordu. Il l'avait fabriqué lui-même et il m'avait mis un petit mot, raquette pour idée folle.
Raquette pour idée folle ou raquette pourrie des folles. je pose des questions, moi, vous savez, j'ai pas d'autre chose. Je n'oublierai jamais à l'école.
J'ai été très malheureux.
Tôt.
J'étais très, vraiment malheureux. Je n'y allais que parce que j'étais amoureux.
Justement,
c'était mon seul mobile.
Justement, je n'oublierai jamais mon premier baiser.
Ce fut divin.
C'était où, quand, quel âge?
Absolument divin, mais c'est...
Non, mais vous avez quel âge?
J'avais 14 ans.
C'était ma vie. Non,
j'avais 14 ans, mais vraiment le vrai premier baiser, quoi.
Ouais, le beau.
Et puis elle est repartie, elle était slovène. Elle a pris le train de nuit pour rentrer en Slovénie.
Arrête.
Et mon père m'a dit, il m'a vu en larmes, et il m'a dit, mon chéri, on va aller à Orly, on va rattraper le train, et on sera à Ljubljana sur le quai demain matin.
Ouais.
Et les femmes de sa famille se souviendront de toi pendant 12 générations. On l'a fait, on a rattrapé le train, on était sur le quai à Ljubljana, et elle m'avait caché qu'elle avait un boyfriend. Aïe. qu'il attendait sur le quai. On est revenu à la queue basse.
Je n'oublierai jamais ma rencontre avec...
Avec ma première éditrice. Que j'ai follement aimée. Que Philippe a très bien connue.
Françoise Verny. On va en parler tout à l'heure.
Qui était une femme de 120 kilos, avec une tronche de dinosaure.
Ah, j'aurais dit de grenouille. Je me souviens.
Oui, de grenouille.
On s'était rencontrés.
Entre grenouille et dinosaure.
Ouais, c'est vrai.
Et j'étais fou d'elle.
Ben voilà, tout c'était. Hein.
Elle était talentueuse.
Une formidable éditrice.
Ouais, absolument. Alexandre Jardin est notre invité dans la bande originale. À suivre les entreprises. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boubedi, Monsieur Philippe Labraud, avec Lise Dorec, Daniel Morin,
oui.
Richard Warnack. Ça va, Richard?
Ça va, un léger lumbago.
Dis un mot, un léger quoi?
Un léger lumbago.
Un léger lumbago, messieurs dames. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chris Esquerre nous a rejoint. Bonjour,
salut.
Chris.
Salut tout le monde.
Et notre invité, Monsieur Alexandre Jardin.
Bravo.
L'actualité, c'est ce livre « Laissez-nous faire ». Est-ce que vous voulez qu'on dise « livre » ou « manifeste » ? Qu'est-ce qui vous plaît comme qualificatif ? On a déjà commencé, c'est quoi ? C'est votre « indignez-vous » ?
C'est la réponse pratique.
Bah oui, c'est un peu ça.
C'est pas Podemos, c'est Assemos.
Ouais, mais
c'est faisons.
Vous l'employez dans le livre. Vous dites, il suffit pas de s'indigner. Maintenant, il faut bouger.
Maintenant, il faut se bouger.
C'est quand même une réponse, un écho à indignez-vous.
Oui, mais c'est la suite. À un moment, on est trop bas, quoi.
Il y avait les think tanks. Il faut faire les doux tanks. C'est ça,
oui,
que
c'est un vrai doux tank. En gros, pour devenir
zèbre, c'est pas les réservoirs à idées, c'est les réservoirs à action.
À action. C'est pour devenir zèbre, il faut passer à l'acte. Si on vient avec des idées, c'est pas notre truc. Parce qu'il y a une urgence sociale épouvantable. Quoi. C'est qu'il faut pour de vrai refoutre au boulot.
Rassembler les bonnes idées au quotidien du bas.
Les bons opérateurs, pas les idées.
Oui, mais enfin, et qui
les actions.
Qui va juger que c'est bon ou mauvais ?
Parce que les c'est ça aussi le problème. Les résultats obtenus.
Si ça marche, d'accord.
Oui.
Il
faut que ça crache du résultat.
Et que ce soit la base qui, ensemble, fasse remuer et secouer le haut, parce que le haut ne sait pas s'occuper de la base, c'est ça ?
Oui. Mais dans tous les sujets.
On attendait que ça vienne d'en haut, ça marche pas. Donc
il faut que ça vienne aussi des maires. Parce que les maires sont extraordinairement créatifs en France. La question du permis de conduire, par exemple. Les maires ruraux nous envoyaient une action toute simple. En gros, ça coûte 1500 euros, un permis. Il y a plein de communes, de plus en plus. Le maire de La Châtre, le maire de etc. Il donne 500 euros et il demande 50 heures de travail d'intérêt général en contrepartie. Ça aide. En zone rurale, vous avez besoin de votre permis tout de suite à 18 ans pour pouvoir bosser, avoir un stage. Ouais. Donc voilà des mairies qui ont des outils. Donc on cherche les outils, on cherche les bons, on cherche les valides, que ce soit des maires, des assos ou des entrepreneurs.
Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une idée aussi simple que ça ne voit pas le jour immédiatement au ministère du Transport en disant voilà, il y a une loi
qui va passer. Parce que les mini-Colbert dans la haute administration résonnent par les lois.
L'insulte ultime, mais oui, mini-Colbert.
Ils résonnent par les lois. Dès qu'une majorité est élue, ils se précipitent au Parlement et ils font une grande loi.
C'est le principe de vivre ensemble. Il faut des lois.
Il faut des opérateurs.
Vous avez beau dire qu'il faut sortir du carré, c'est un très bon exercice qu'il y a dans le livre. Il faut sortir, oui, mais en même temps...
Il faut des barrières pour savoir où on a le droit de jouer.
Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas de loi. Ouais. Je dis simplement qu'il faut des opérateurs. Il faut savoir qui fait quoi, à quelle heure, où. Tant qu'on n'a pas localisé le gars ou la fille qui a envie quoi, de faire... Je vais vous prendre un exemple très con. La CGPME Île-de-France.
Je vais comprendre, alors.
C'est tellement simple que ça marche. La CGPME Île-de-France.
On va vérifier.
Ils ont des équipes qui font le tour de leurs membres en Île-de-France. Ils téléphonent, ils prennent le rendez-vous avec des petits patrons. Ils leur font connaître les dispositifs de retour à l'emploi. Une visite sur deux donne lieu à la création d'une fiche de poste. Et ça refoue des milliers de gens au boulot.
C'est pas un tour de baguette magique. Pourquoi ? Comment ?
Si Pôle emploi le fait, le petit patron va raccrocher au nez. C'est-à-dire que quand vous raisonnez par feuzeux, vous raisonnez avec des gens qui sont au bon endroit. Et là, par exemple, ce que fait la CGPME Île-de-France...
Parce qu'ils sont quoi ? Préemptés parce qu'il y a la caution de celui qui vient et qui le présente
Parce qu'ils sont entre eux. Ils sont au bon endroit.
C'est ce que vous dites dans le mouvement de solidarité pour les dons alimentaires. Comme ça vient des paysans, on est rassuré. On peut faire confiance sur le surplus.
C'est un programme génial.
Voilà. Plutôt que de jeter la nourriture, on la donne à ceux qui en ont besoin.
La FNSEA marche avec Solal. Du coup, les paysans donnent en confiance leur récolte.
Solal, c'est S-O-L-A-A-L.
Voilà. Personne ne sait ce que c'est en France. C'est l'effort de solidarité des paysans. C'est gigantesque. C'est des milliers de tonnes de toutes sortes de produits. C'est toutes les récoltes non récoltées, tous les surplus alimentaires qui sont fléchés vers les mouvements caritatifs.
Ce qui a toujours existé chez les gens de la terre. Oui, pardon, Philippe.
Pardon. Si, quand vous dites personne ne sait ce que c'est en France, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi communiquer. Oui. Votre bouquin ne suffit pas.
C'est ce qu'il fait maintenant.
Oui, il faut écouter Philippe Bertrand sur France Inter dans le carnet de campagne.
Tous les jours,
il fait ça tous les jours.
C'est bien. C'est bien qu'il fasse ça.
Ouais. Bah, c'est la force aussi du service public. C'est un bon gars. J'aime bien ces jeux de mots aussi. Chris Esquer, quelle est votre première question, Alexandre Jardin?
Oui, Alexandre Jardin, vous parliez tout à l'heure de votre schizophrénie. Physiquement, vous êtes le croisement entre Luc Chatel et Jean-Michel Jarre. Qu'est-ce que ça implique dans votre façon d'être avec vos proches?
D'être hybride de Jarre et Chatel.
Est-ce qu'il y a un déterminisme?
Avec mes proches.
Et est-ce que vous en parlez?
Je fous le bordel dans leur vie.
Ah oui?
Parce que quand vous vous lancez dans un truc comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour votre vie de famille, c'est pas évident pour vous. D'abord, je suis tout le temps sur les routes, hein, parce que vous soulevez pas les ressources d'un pays depuis Paris. Hein.
Ça, c'est le côté Jarre ou Chatel?
Ni l'un ni l'autre.
Et vous n'êtes pas le seul?
Comment? Non, on est des équipes entières, mais simplement, très souvent, il faut que j'y arrive pour amorcer la pompe. Hein.
Ouais.
C'est comme le programme L'Irait faire lire.
C'est votre notoriété?
Oui, je m'en sers.
Il pourrait y avoir une franchise Jardin, c'est-à-dire déléguer aux autres.
On se met des écharpes zébrées autour du cou.
Et pourquoi rouge? Pourquoi des écharpes rouges? Ça
non,
vient
pas
d'où
rouge,
ça
elles sont pas rouges.
Ah bah dans le bouquin, il y a écrit écharpe rouge.
Non, vous parlez des bonnets rouges, là.
Non, non. Ouais. Non, il y a les bonnets rouges, mais il y a des écharpes rouges.
Parce que les bonnets rouges aussi, vous les avez réunis.
Pour le conseil du coin, page 105. Ah oui, voilà, les zèbres sont reconnaissables. Alors, écharpe rouge. Vous avez vu, j'ai lu votre livre.
Ça, on va voir les révoltes en France. Il y a eu une révolte des notaires. Ils prétendaient que. Ils donnaient des conseils gratuits aux gens puisqu'ils sont payés à l'acte. Je leur ai dit, c'est pas vrai pour les classes populaires parce que les gens dans les HLM, ils n'achètent pas de biens, donc ils voient rarement un notaire. Est-ce que vous pourriez, par exemple, faire du conseil gratuit une fois par mois, premier samedi du mois, dans les cafés populaires des villes? Et il y a Maître Chauveau, un Breton.
Vincent Chauveau.
Ouais, Vincent Chauveau. Il en a embarqué d'abord 300, puis 2500.
Qui est très à cheval sur les lois.
Ils le font. Ils le font. C'est génial. Ils vont à Barbès, au port de Paris. Ils foutent des écriteaux à l'entrée des cafés. Et dans ces cafés-là, le premier samedi de chaque mois, il y a la queue.
C'est publié chez Robert Laffont. Alexandre Jardin, avec ce livre, Laissez-nous faire. Chris Esquer continuera l'interview d'Alex Jardin après l'humeur de Monsieur Morin.
Attention, événement aujourd'hui, 29 avril, c'est l'ouverture de la Foire de Paris. Eh oui, mesdames et messieurs, jusqu'au 10 mai, venez nombreux à la Foire de Paris. Bricolage, loisirs, culture, bien-être, alimentation, voyage et des inventions plus grandioses et loufoques les unes que les autres. La Foire de Paris, c'est la plus grande... C'est le bordel, mes amis. La Foire de Paris, vous y trouverez tout et surtout n'importe quoi. Attention, c'est jusqu'au 10 mai. Après, la vie redevient normale. C'est vrai que c'est un bordel géant, la Foire de Paris. Et c'est ça qui est génial. Les objets du futur sont déjà là, déjà présents à la Foire de Paris. Il y a des gars qui vendent des trucs de malade en te faisant la démonstration en direct. Approchez, mes amis, approchez. N'ayez pas peur. Le seul danger que vous courez en venant vers moi, c'est de mettre un pied dans le futur dès aujourd'hui avant tout le monde. Et ce, pour un prix que je qualifie de symbolique. Allez, on vient, on n'a pas peur. Ici, on vous propose demain, dès aujourd'hui, au prix d'hier. Attention, ce qui va suivre, c'est sûrement l'affaire du siècle. Arrivée ce matin directement depuis les États-Unis, la cabine de douche utilisée par les astronautes, c'est un produit mis au point par la NASA. 63 ans d'études pour finaliser le produit, Nagui l'a essayé. Mais aujourd'hui, quel produit? entièrement fabriqué avec du sable lunaire. Le verre des parois de la douche est incassable. Il peut résister à une pression de 1600 tonnes. Ça sert à rien, mais ça rassure. Le verre lunaire est insensible à la buée provoquée par les vapeurs d'eau jusqu'à, attention, jusqu'à 1000 degrés. Et 1000 degrés, c'est une douche chaude. La cabine de douche NASA est pourvue non pas de 1 jet, ni de 2 jets, ni de 10 jets, ni de 20 jets, mais de 150 jets. Quand vous les mettez tous ensemble, vous avez l'impression d'être une bagnole en vacances chez l'éléphant bleu. Des jets qui s'arrêtent automatiquement, les capteurs de graisse et de crasse détectent près de 1000 sensations propres. Vous croyez que vous en avez fini avec la cabine et qu'il ne vous reste plus qu'à attraper votre serviette ? Erreur ! Sitôt lavé, le mode séchage entre en action. Les 150 jets vous balancent à présent un souffle sec et continu partout sur le corps. Et quand je dis partout, c'est partout. Terminez les croupions mal séchés qui finissent couverts de mycoses et provoquent des démangeaisons peu gracieuses quand vous vous promenez dans la rue. Si vous achetez aujourd'hui la super cabine de douche made in USA fabriquée par la NASA et validée par Maggie, je vous offre en plus une véritable révolution. Le compagnon parfait pour ceux qui habitent dans les grandes villes comme Paris. Je m'explique. Aujourd'hui, on voudrait tous avoir un chien, mais maintenant, à Paris, il faut ramasser les crottes. Et ça, c'est contraignant aujourd'hui. Je vous propose tous les avantages d'un chien de compagnie sans les inconvénients de la sortie sanitaire. Ce chien issu d'une technologie hyper sophistiquée, mise au point par la SPA et les ateliers Mounilex, c'est le CSA, le chien sans anus. Dépourvu d'anus, votre compagnon, votre caniche, ne peut pas déféquer de façon inopportune dans votre salon, ni dégazer sournoisement dans le couloir derrière un meuble. Une fois plein, la truffe du CSA se met à clignoter. Ça veut dire qu'il faut changer le sac qui se trouve à l'intérieur et qui est accessible grâce à une petite trappe sous le ventre de votre animal. Remplacez le sac comme vous le faites pour votre aspirateur et hop, c'est parti pour 10 litres d'autonomie. Mon offre est valable uniquement aujourd'hui. Je résume. La cabine de douche révolutionnaire made in USA chez la NASA, plus un CSA, le chien sans anus, 100% propre pour 9 990 euros. Vous avez bien entendu, pour moins de 10 000 euros, vous pouvez prendre une douche d'astronaute tous les matins et profiter du chien ultime en matière de propreté. 10 000 euros payables en 50 fois sans frais après acceptation du dossier. Attention toutefois, en ce qui concerne le chien sans anus, le constructeur décline toute responsabilité en cas d'explosion du chien si le sac n'a pas été changé à temps. Les frais de changement de papier peint ne seront pas pris en charge. Couchez, à demain.
La suite.
Alexandre Jardin, vous aimez l'effort physique ?
je m'y force.
J'ai besoin d'en savoir plus sur vous, comme vous serez peut-être amené à avoir des responsabilités politiques au sens large, vous les avez déjà. Besoin de savoir un peu. Qu'est-ce que vous pensez de la corrida ?
La corrida, je n'en ai jamais vu. Je n'en pense rien.
Mais vous savez comment ça se passe ?
Oui, mais je me...
Vous n'en pensez rien ?
Non. Non.
Vous n'avez pas d'avis ?
Non. Je n'ai pas d'avis
sur tout. Ça m'étonne. Ah ouais. Et pas sur la corrida.
Non.
Vous pensez que c'est mieux de ne pas avoir d'avis que d'en avoir un sur la corrida ?
Non, mais sincèrement...
Ça vous met mal à l'aise, ce sujet ?
Non. Oui, ce qui me fout mal à l'aise, c'est quand dans les médias, vous avez des gens qui répondent à tout.
Ouais.
Et alors qu'ils n'ont pas forcément d'opinion. Je trouve que c'est vachement plus simple de dire qu'on n'en a pas.
Ah ben justement, je voudrais la liste de tous les sujets sur lesquels vous n'avez pas d'avis.
La liste.
Merci,
je vais
Alexandre.
Vous envoyer bientôt. Non, mais
ça me fait plaisir de vous voir. Non, mais c'est agréable, je suis d'accord. Les hommes politiques ont toujours.
Chose effarante. Quand on est devant sa télé, on voit des gens qui balancent des réponses sur tout. Je me dis, mais moi, je n'ai pas forcément d'opinion sur tout.
C'est pas mal quand quelqu'un dit je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Oui, mais là, c'est pas. Oui, c'est pas. Oui. Mais
c'est là, je n'ai pas d'avis.
Là, il ne reconnaît pas son manque de savoir. Il n'a pas d'avis.
Oui.
Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de sujets, quoi. C'est-à-dire, quand on s'investit dans la vie politique, il ne faut pas. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré ?
Il y a 2 secondes.
Il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Il n'y a pas très longtemps et en fait, je préfère pas le dire.
Non, ok. Ça aussi, c'est souvent les hommes politiques, ils n'osent pas reconnaître, hein, vous voyez, se dévoiler un peu dans les aspects comme ça plus sensibles.
Mais je ne me sens pas un homme politique.
Ah bon ?
Non, on fait du politique, pas ouais. De la politique.
Oui.
Ce n'est pas la même chose.
Non.
C'est-à-dire que les... quand vous êtes délivré de cette tentation,
ouais.
de cette envie-là, d'accéder aux fonctions officielles, putain, d'abord vous pouvez demander tout à n'importe qui. Puisque vous savez que vous bossez pour l'intérêt général, ouais. et que vous n'êtes pas là pour vous, quoi. Donc, Vous pouvez demander aux chaînes de télé de l'espace publicitaire pour des campagnes de recrutement pour lire et faire lire.
Ouais.
Ce qu'a fait BFM.
Dites-moi, Alexandre Jardin, est-ce que vous avez un avis...
Et j'en obtiens là en ce moment.
Est-ce que vous avez un avis sur Cat Stevens?
J'adore.
Parce qu'on va écouter.
Ah oui, c'est un avis.
Wild World. Si tout le monde est d'accord.
Évidemment.
Ah oui, tous étaient amoureux
oui,
là-dessus.
Moi, je suis d'accord.
Hein. Enfin, non, alors on écoute.
Mais...
Non, pas elle.
Bah,
non.
Pourquoi? J'ai pas été amoureuse là-dessus. Bah non, je sais pas, c'était en quelle année. How did I've lost everything to you? You say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and
Cat Stevens, on est toujours sur France Inter dans la bande originale avec Alexandre Jardin. Leïla.
Nous allons évoquer une figure importante pour vous, Alexandre Jardin. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'agit de Françoise Verny. Vous avez dressé son portrait physique, une femme dont la beauté n'était pas ce qu'on retenait au premier abord, imposante, mais aussi qui avait du flair. On lui doit d'avoir incité Yann Kefelek à écrire en lui lançant un jour « Toi, t'as une gueule d'écrivain, comme ça ». Par hasard, elle a aidé et accompagné Lucien Baudard, Sagan, Malé Joris, Glucksmann, BHL aussi.
Peut-être Philippe. Elle m'a aidé aussi.
Elle vous a aidé aussi.
Au moins deux de mes livres. Oui, oui.
Et au-delà de ce flair, cette modestie, on écoute sa voix.
Je voudrais tout de même corriger une erreur qu'on fait souvent, même quand on parle de moi ou quand on parle du métier que je fais, du métier d'éditeur. C'est qu'on ne fait pas naître des écrivains. On les aide à exister, on les aide à prendre confiance en eux. On les aide à voir clair dans ce qu'ils font. Et ce n'est que ça que j'ai fait, parce qu'on ne crée pas des écrivains. Je ne suis pas Pygmalion avec des tapettes galatées. Ça n'est pas vrai.
Comment elle vous a aidé? Comment vous l'avez rencontrée?
J'avais écrit une pièce de théâtre. J'avais 19 ans. Et je n'arrivais pas à la monter. J'ai rencontré un type dans la rue qui lui avait fait lire la pièce. Et il me rappelle et il me dit « Elle voudrait te rencontrer ». Et j'ai dit « Ça ne m'intéresse pas, elle n'est pas directrice de théâtre, je ne veux pas écrire de roman ».
Elle était où à l'époque?
Directrice littéraire de Gallimard.
Ah ouais, vous êtes tranquille, vous.
Mais je ne voulais pas écrire de roman. Et je voulais écrire pour le théâtre à 19 ans. Et le type m'a dit « Tu es trop con ». Je garde le manuscrit. Enfin, et deux jours après, il me rappelle et il me dit, ben, puisque tu ne viens pas, elle vient dîner chez toi.
Françoise Verny est venue chez vous.
Donc, elle a déboulé. J'habitais encore chez ma mère. J'ai été prévenu. J'ai dit, on fait quoi? On ouvre la porte. Ma mère m'a dit, je crois que c'est quelqu'un d'intéressant. Ouvrons la porte. Donc, je vois arriver cette énorme femme, ivre morte. Dans le salon.
Avec son sac.
Ouais, avec son cabas manuscrit.
Ouais, ouais. Elle mangeait
beaucoup.
Elle
rentre, elle pousse un barrissement, elle saute sur ma mère, elle lui propose tout de suite de monter un bordel littéraire où les clients paieraient en copie, elle était complètement bourrée. Elle m'a chopé par le col, elle m'a entraîné sur la moquette en me disant « Chérie, fais-moi un roman ».
Vous ne confondez pas avec Rosine Bachelot, là.
Mais non, mais c'est sublime, les gens comme ça. Parce que vous voyez le destin rentrer dans votre salon. C'est-à-dire que si vous ne le voyez pas quand il pèse 150, 120 kilos et qu'il vous jette sur la moquette, vous ne le verrez jamais. Je veux dire, mais Françoise n'avait pas de frein. Je ne sais pas, il y a une sorte... Et puis, elle vous apprenait, lorsque vous lui filiez votre manuscrit... Elle me rendait souvent avec un gros feutre, elle entourait des passages, elle posait la question fondamentale, est-ce que c'est toi? C'est-à-dire qu'elle me poussait à m'approprier mon propre texte. C'est ça un éditeur.
Ça veut dire quoi, est-ce que c'est toi?
Ça veut dire que c'est insuffisamment, tu t'es insuffisamment approprié ton texte, tu n'es pas assez présent dans ce paragraphe. Sois présent, sois là dans chaque mot, dans chaque ligne. Et c'est vrai que c'est ça un immense éditeur. J'aurais adoré lui faire lire ce livre que je publie là.
Sincèrement.
Parce que
c'était une femme engagée. Hein. Par ailleurs, elle a été communiste. Elle s'est engagée aussi à l'époque de l'Algérie, pour la libération de l'Algérie.
Mais j'aurais adoré.
Ce livre-là, c'est...
Dès qu'on trichait pas, elle aimait ça. Voilà.
Ce livre-là, Alexandre Jardin, c'est le grand projet que vous avez repoussé. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire après? C'est quoi les choses restant à faire de votre vivant?
Mais quand on aura gagné, c'est-à-dire... Putain, d'abord, j'ai envie de vivre une grande époque. Avant de penser à moi.
Vous êtes né à la mauvaise époque, en fait.
Non, on va recommencer cette époque. Je veux dire, on n'a qu'un seul ticket. On vit dans un pays absolument génial. On est en train de crever alors qu'on a toutes nos solutions. Stop!
Non, mais est-ce que c'est une raison pour m'engueuler, Alexandre? Vous êtes en train de m'engueuler. Est-ce que c'est une raison pour me disputer?
Peut-être.
Je vais peut-être mériter, au fond.
Non, mais... Ouais. J'ai envie de vivre une grande époque. On était en train de s'éteindre.
Et
c'est
si
pas possible que la France devienne comme ça.
Et si le succès des Zèbres tient à une chose, le fait qu'il n'y ait pas de leader apparent ou que ce ne soit pas vous le leader, vous êtes prêt à laisser votre place?
Mais ça va de soi.
Non, mais quand vous avez parlé tout à l'heure d'éventuellement d'un échec, donc on irait au combat et on irait, on se présenterait, qui se présenterait? Vous avez parlé de votre notoriété tout à l'heure.
Ça peut être moi ou un autre, mais on n'est pas là-dedans. Très sincèrement, on sert la France. Je veux dire, on n'est pas là-dedans.
Vous savez, Alexandre Jardin, à cette heure-là, normalement, on a une séquence qui s'appelle les questions en cascade. Mais c'est questions courtes, réponses courtes. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée de la lancer aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est très dangereux de la lancer parce que vous n'y arriverez pas. Vous pensez que vous pourriez y arriver ou pas?
Pas sûr, mais
vous ferez un effort.
La dernière fois que vous avez fait une réponse courte?
Mais là, on va essayer, on va voir.
Est-ce qu'on essaye vraiment? Je vivrais très mal un échec.
Comme je suis à portée de baffe, vous pouvez y aller.
Oh non, je préfère pas. En plus, mais non, on n'a plus le temps. C'est l'heure des désolés du jour, Daniel.
Ah, ça y est.
On a zappé les cascades, on n'avait pas le temps.
On n'a pas le temps.
Désolé.
Vous aviez tous traîné, me regardez pas avec un
air de reproche. Fallait bien tenir votre tranche, mon ami. Désolé pour toutes nos auditrices soumises qui sont en train de cuisiner des boyaux de porc. À 11h07, elles se sont mises à douter de leur recette d'un seul coup. Désolé pour tous nos auditeurs, les nostalgiques du grand Pierre Laval, à Nagui. Vous a manqué de respect, Pierre. Vous aussi, les auditeurs. En même temps, les gars, ils vont rester RMC. Je suis désolé, je peux pas faire mieux.
Merci, Daniel. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. Laissez-nous faire, on a déjà commencé chez Robert Laffont. Merci beaucoup.
Merci.
Rentrez bien chez vous. Je ne sais pas ce que vous allez faire.
Écoutez Philippe Bertrand.
Demain, c'est Jean-Pierre Mocky qui sera invité de la bande originale avec Nagui. Et tout de suite, c'est Philippe Bertrand, Carnet de campagne.
Merci Chris. À demain. Et merci à Leïla aussi.